L'hebdo politique.
Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation. Nous sommes dans l'hebdo politique numéro 9. Nous recevons avec plaisir ce soir Valérie Beuriot, qui est maire de Brionne, vice-président de l'intercom Bernet Terre de Normandie, en charge entre autres des déchets ménagers et du plan local Habitat.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.
Monsieur Beuriot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 47 ans, vous êtes marié, papa de 3 enfants, vous avez été prof de lettres, vous avez suivi une scolarité dite classique, notamment à Brionne d'abord, La Providence, Brossolette, puis à Bernay, Fresnel. Vous êtes allé à la fac de Rouen avant de revenir pour faire cours au collège Curie de Pont-Audemer comme enseignant, où vous êtes du reste toujours en poste. Vous êtes politiquement parlant adhérent au PCF depuis très longtemps, élu en 95 à 25 ans sur la liste de monsieur Grimaud. Vous êtes d'abord maire adjoint à l'environnement et aux finances avant de prendre la mairie en 2015. Vous avez été vice-président de l'intercom du pays brionnais, du pays Rille-Charente, et vous êtes toujours président du SDEMOD.
L'hebdo politique sur Sensation Normandie.
La première question, monsieur Beuriot, votre parcours qui vous amène de l'enseignement à la politique ou de la politique à l'enseignement, est-ce que c'était logique, obligé? Comment ça s'est passé tout cela?
Non, c'est un parcours en parallèle, hein, c'est-à-dire que vous l'avez rappelé depuis ma prime jeunesse. J'ai toujours eu un engagement politique, une fibre, un intérêt pour la chose publique. Et c'est tout naturellement que je me suis engagé en politique à gauche, parce que ça correspond à mes idées. Et c'est peut-être...
toujours au PC,
toujours au Parti communiste, oui. Alors bon, effectivement, j'ai été approché, comme beaucoup d'étudiants, par l'extrême-gauche. Mais c'est au Parti communiste que j'ai trouvé une vraie famille.
D'accord. Donc c'était en fait un parcours logique. Dans la famille, on était aussi...
Je ne sais pas si c'est logique. Mes parents étaient plutôt de sensibilité de gauche. Ma famille, un peu plus large, c'était plutôt des positions plus conservatrices. Voilà, mais je crois qu'on est aussi le produit de son contexte familial et de son éducation.
Si je peux me permettre, avec une petite pointe d'humour, même si on est à gauche, on ose vous... prénommé Valérie.
Alors ça c'est effectivement dans la famille, c'est une anecdote qui revient souvent. Non, en fait, mon père voulait m'appeler Georges comme son grand-père, et mes deux sœurs aînées ont choisi le prénom que je porte aujourd'hui, et d'accord, je les en remercie très vivement.
Bien. Vous avez porté les couleurs du Front de Gauche à un moment donné pour les objectifs politiques, et puis vous êtes désolidarisé, si on peut prendre ce terme-là, de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ?
Alors, l'aventure du Front de Gauche, elle a commencé en 2010 avec les élections régionales auxquelles j'ai été candidat. Ça a été une aventure assez enthousiasmante. J'ai encore en tête la campagne présidentielle et législative de 2012, où Jean-Luc Mélenchon a été notre brillant candidat. 2017, ça s'est pas du tout passé dans les mêmes conditions. Il y a eu de la part de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis une défiance vis-à-vis de ses partenaires du Front de Gauche. Et je pense que l'appareil a pris le pas sur les idées. C'est-à-dire que moi, j'ai porté dans la dernière décennie les idées du Front de Gauche ou de la gauche radicale dans notre territoire, que ce soit aux élections législatives de 2007 ou de 2012, avant même que Jean-Luc Mélenchon ne quitte le Parti socialiste. Et en 2017, j'ai été véritablement déçu de la tournure que prenait cette campagne, c'est-à-dire qu'il fallait se couler dans le moule qui était imposé par la France insoumise, alors que le Parti communiste est depuis pas mal de temps déjà dans une position à la fois de rassemblement, mais dans le respect des identités et des sensibilités de chacun, qui, à mon sens, font la richesse justement de ce mouvement social que nous voulons élargir.
Un vent de colère, un souffle d'espoir, c'était le slogan de Sébastien Jumel que nous avons reçu pour les régionales. Il était votre porte-drapeau pour cette élection. 2 ans après, Hervé Morin, Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron sont aux affaires et Jean-Luc Mélenchon a perdu un peu de sa voix. Est-ce qu'on a rangé l'étendard de la révolte ? Est-ce qu'on patiente tranquillement là ?
Écoutez, je ne sais pas si on a rangé l'étendard de la révolte. Je rebondis sur ce qu'a dit récemment Jean-Luc Mélenchon au micro d'un de vos confrères à propos des ordonnances Macron sur le travail en disant que le président avait gagné le point. Moi, je ne pense pas. Et le Parti communiste, on ne pense pas que Macron a gagné le point. En tout cas, non, on ne lui laissera pas. Nous sommes toujours dans une position évidemment de non seulement de contestation de la politique qui est menée aujourd'hui par le président Macron, sa majorité aussi novice que pléthorique, mais nous sommes aussi dans une logique de proposition. Nous avons des propositions à faire pour que dans ce pays on prenne en compte véritablement ceux qui souffrent au quotidien, et c'est pas simplement les plus démunis d'entre eux, mais c'est également de plus en plus une majorité de nos concitoyens qui ne se retrouvent pas dans le discours du premier de cordée. Je prends l'exemple tout récent donc des ordonnances sur le travail. On le voit bien, le grand patronat, que ce soit la grande distribution avec Pinky du groupe Auchan ou Carrefour, ou bien l'industrie automobile, se sont très vite emparés d'une des mesures prévues dans les ordonnances, qui est la possibilité de rupture conventionnelle collective. Bon, là, on le voit très bien. C'était un vieux rêve du MEDEF qui s'est concrétisé avec ce nouveau gouvernement. Et on va pouvoir licencier, enfin ce sont des permis de licencier sans contrainte, sans la contrainte d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans la contrainte d'un plan de départ volontaire.
Certains syndicats n'y sont pas opposés, d'après ce qu'on a compris.
Oui, enfin les syndicats réformistes habituels. Non, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, y compris à la CFDT, de la dangerosité de ce type de mesures qui permettent de... Voilà, ce sont des licenciements low cost qui permettent de se débarrasser de ces salariés assez massivement sans les contraintes et les garanties du Code du travail.
Une question un peu plus de territoire. La fusion au sein de l'Intercom Bernet Terre de Normandie, elle a été digérée plus ou moins bien par certaines communes où c'est plus compliqué notamment lorsqu'on se rapproche de la Seine. Comment ça se passe, vu de Brionne ? Est-ce que les tensions et les égos se sont apaisés ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de querelle d'égo. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de tension, mais il n'y a pas de querelle d'égo. C'est déjà une bonne chose. Il y a eu un consensus pour l'élection du président Jean-Claude Rousselin il y a un an. Maintenant,
je crois que le préfet avait retoqué certains statuts.
Oui. Je ne veux pas faire de langue de bois. Je crois que, et je l'ai rappelé d'ailleurs devant les maires et devant mes collègues vendredi au vœu de la ville de Brionne, il faut reconnaître que nous avons commis, et je m'inclus évidemment dedans, un certain nombre d'erreurs, de maladresses, un certain nombre d'élus, conseillers municipaux, adjoints ou maires sont dans une position de défiance vis-à-vis de cette intercommunalité. Je crois que il faut d'abord reconnaître qu'il y a eu du travail qui a été mené pendant cette année 2017, qui est une année de transition, qui va d'ailleurs continuer en 2018. Mais il y a eu un déficit de communication l'immigration. Et je crois qu'il faut d'abord essayer de réinventer de la démocratie locale, parce qu'évidemment, quand on change d'échelle, comme c'est le cas pour l'intercom Bernétaire de Normandie, un certain nombre de collègues, et je les comprends, se sentent dépossédés de la décision. Donc il faut aller expliquer dans les territoires, comme ça a été fait d'ailleurs après le premier vote des statuts, il faut aller dans les anciens territoires, à la rencontre des élus, des rendez-vous réguliers. Et puis je crois aussi, je l'ai également souligné récemment, je crois qu'il faut rééquilibrer la gouvernance de cette PCI. Quand je dis rééquilibrer, c'est-à-dire que le bureau a sans doute pris trop de prérogatives, et je pense que le conseil communautaire avec les 80 délégués doit reprendre la main, et je pense que la confiance petit à petit va revenir. Et puis je voudrais souligner aussi que nous avons fonctionné pendant près de 6 mois sans directeur général des services, et il y a eu un certain nombre de problèmes organisationnels qui en ont découlé.
Et pourtant, il y avait une personne qui était en place et qui faisait très bien le travail.
Oui, alors j'ai été de ces élus
qui l'ont défendu,
qui ont défendu l'ancienne directrice générale des services, qui a eu un rôle à la fois ingrat mais passionnant, qui a été de faire cette transition. Je crois que ça fait partie des erreurs ou des maladresses que l'Intercom a commises, de ne pas dire clairement les choses telles qu'elles avaient été décidées. Voilà. Maintenant, je crois qu'il faut regarder devant nous, laisser de côté les regrets et les frustrations. Nous avons un certain nombre de mesures à mettre en place pour regagner la confiance, mais surtout, nous avons devant nous un gros travail qui est le projet politique de cette intercommunalité.
Certains de vos collègues disent à mot couvert que Jean-Claude Rousselin serait plus légitime. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous défendez ?
Non, moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette logique. Je fais partie du bureau. Nous avons du travail. Moi, je ne cherche pas, je vous le disais, il n'y a pas de querelle d'égo. En tout cas, je c'est pas le sentiment que j'ai en étant dans cette intercom. Moi, je suis là pour travailler. J'ai des dossiers que je souhaite faire avancer, que ce soit sur la question de l'harmonisation des taux d'élimination des ordures ménagères, que ce soit également sur le taux lui-même, parce que je pense que il y a peut-être également à faire en sorte que les efforts qui ont été faits par les habitants sur le territoire en termes de tri, et je sais de quoi je parle puisque je suis responsable du centre de tri du SDOMOD, il faut que ce geste qui est fait depuis des années se voit un peu plus, y compris pécuniairement. Et puis, il y a aussi un formidable travail en ce qui concerne une compétence nouvelle qui nous a été donnée par la loi NOTRe, qui concerne le plan local Habitat. Nous savons que dans ce territoire, nous avons des problématiques certaines, notamment en termes d'habitat dégradé, en termes d'habitat indigne, notamment dans les centres-bourgs, Bernay, Beaumont, Brionne. Et puis nous avons une politique à mener sur ce sujet avec des enjeux forts.
On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission.
L'hebdo politique.
Deuxième partie de cette hebdo politique où je reçois le maire de Brionne, Valérie Beuriot. Petite question pour détendre un peu l'atmosphère, monsieur Beuriot. Comment va Martine Goeten et qu'est-ce que vous lui avez souhaité pour ce début d'année 2018?
Et je ne sais pas comment va Martine Goeten, simplement...
C'est votre opposante préférée.
Oui, ce n'est pas l'adjectif qui me viendrait véritablement en tête. Pour ce qui est du nom, effectivement, c'est une opposante. Moi, je suis un démocrate, quoi qu'elle en dise. Je respecte l'opposition municipale. Simplement, je note que Madame Goitine est dans une position qui n'est pas très digne, c'est-à-dire qu'on est dans l'anathème permanent, on est dans les attaques ad hominem également permanentes. Vous savez, moi je suis un homme avec des convictions que tout le monde connaît. Je n'ai aucun problème à travailler avec des collègues sur le territoire qui n'ont pas mes idées. Ce que je fais sur le territoire de l'Intercom, vous imaginez bien que je le fais également à Brionne. Je suis plutôt un homme de consensus, même si je n'en rabats pas sur le plan des idées.
Du reste, vous avez réussi à réunir la gauche dans votre majorité.
Oui, enfin, cela dit, cette réunion était toute naturelle, puisque le schisme de 2014 était vraiment artificiel. Effectivement, moi, je cherche à rassembler au maximum les élus, les habitants sur les enjeux qui sont ceux de notre commune ou ceux de notre intercommunalité. Bon, l'opposition stérile telle que l'amène Madame Goitine, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ça intéresse peut-être un peu la presse pour faire vendre. Bon. Mais,
en tout cas, on lui souhaite une bonne année.
Oui, bien sûr.
Bien sûr,
on lui souhaite une bonne année, mais surtout une année constructive. Moi, je suis prêt, évidemment, à travailler avec toute l'opposition, sans exception.
Valérie Berriot, dans un contexte financier difficile et encore difficile, l'agenda municipal était axé l'an dernier, on le rappelle, sur la sécurité et la communication. Qu'en sera-t-il cette année, avec notamment... une nouvelle information qui est sortie dans la presse récemment, en parlant de sécurité, vous allez armer vos policiers. Alors, les objectifs et la feuille de route pour cette année.
Alors, s'agissant du budget en général, je ne vais pas évidemment vous surprendre en vous disant qu'il va être également cette année très difficile à boucler, dans la mesure où nous avons subi une purge assez sévère durant le dernier quinquennat. Pour Brionne, les 11 milliards de baisses de dotation globale de fonctionnement se sont traduites par 860 000 euros de recettes en moins sur le budget. Il a fallu serrer les boulons, optimiser les services. Dans le même temps, je souhaite avec mon équipe évidemment faire avancer Brionne. Nous avons des projets et évidemment nous nous sommes fixés un certain nombre de priorités. S'agissant de la communication, écoutez, nous avons bien avancé en 2017 puisque nous avons sorti une première revue municipale qui s'appelle Le Brionnais en décembre, qui va paraître trimestriellement. Qui non seulement donc, donnera un certain nombre d'informations pratiques aux Brionnais, mais aura également pour but de valoriser l'action municipale. Ça, c'était une de nos faiblesses.
C'est un retard, ça veut dire qu'auparavant, la mairie ne parlait pas à ses habitants
ou... Non, c'est pas ça du tout. C'est simplement que nous étions évidemment à l'écoute des habitants, mais simplement, on n'avait pas ce réflexe de faire savoir la multitude
des projets,
de projets, de services que nous rendons aux habitants. Je vais prendre deux exemples s'agissant de l'aide aux familles. Nous avons à Brionne, je pense que dans le territoire, nous sommes l'une des rares communes à le faire. Nous prenons en charge intégralement le reste à charge des familles s'agissant du transport scolaire, hein, pour les primaires et le collège, et une grande partie s'agissant du lycée. Nous donnons un bon de fourniture scolaire, hein, pour toutes les familles, et ça sans condition de ressources. Bon, ces choses-là, les Brionnais auparavant pensaient que ça se pratiquait partout. Non. On le fait savoir via la revue. Nous allons refondre entièrement notre site internet et nous avons sorti également une revue qui paraîtra deux fois par an sur le sport spécifiquement, puisque nous souhaitons mettre en avant la richesse humaine de nos associations et en particulier des clubs sportifs.
C'était l'un de vos vœux l'année dernière, ça sera certainement encore un de vos vœux cette année, l'acquisition de l'ancienne entreprise de transport Siret.
Oui.
On avait donné 4-5 ans de délai, ça c'est plus.
Alors, nous avons effectivement procédé à l'acquisition progressive de l'ancienne entreprise Ciré de La Porte. Hein, c'est l'ancienne filature de La Porte également. Et nous nous sommes, donc là, nous avons dans le giron municipal à peu près 80% hein, de ces locaux et de cette surface. C'est un endroit idéal, 2 hectares en centre-ville, bordé par la Rille de part et d'autre.
Pour en faire quoi ?
Et nous nous sommes inscrits, j'y viens, nous sommes inscrits dans un appel à projet qui a été lancé par le CAUE 27, c'est-à-dire le Conseil en architecture, en urbanisme et en environnement de l'Eure, qui s'appelle Vallée Habitée. Ce projet est lui-même la traduction, on va dire, locale d'un appel à manifestation d'intérêt du ministère de l'Environnement qui date de 2015. Et l'objectif de ce projet, Vallée Habitée, c'est de partir d'un constat de déprise à la fois démographique et économique dans les bourgs de fond de vallée, comme à Brionne, comme à Rugle, par exemple, et de proposer des solutions innovantes en termes déjà de recherche-action de matière grise, de façon à faire en sorte que émergent de nouvelles façons d'habiter le territoire dans le cadre de la transition économique et écologique que les gouvernements successifs ont voulu. Donc pour Brionne, c'est un projet sur 3 ans, une étude qui sera financée par le CAUE, par la région et par l'établissement public foncier de Normandie et également par la ville de Brionne. Une étude qui va associer également les habitants. C'est une démarche qui se veut participative, faire en sorte que les Brionnais puissent s'approprier ce projet, ce processus, cette démarche. C'est-à-dire que vous me posiez la question, que voulez-vous en faire ? Évidemment, on a quelques idées. On peut avoir du mixte habitat et activité économique. Mais tout l'intérêt justement de cette démarche Vallée Habitée, c'est de penser le Brionne 2030 et ne pas avoir une vision à courte vue. C'est un projet véritablement qui a vocation, évidemment, après analyse, après bilan, qui aura vocation à être élargi à l'ensemble de notre territoire.
Brionne, c'est aussi son histoire. C'est un peu la mode actuellement où les communes s'accaparent leur patrimoine historique, qu'il soit médiéval ou religieux. Avec l'association Brionne Carrefour d'Histoire, vous avez beaucoup avancé avec un nouveau parcours historique, etc. L'avenir de Brionne passe aussi par son passé, en fait, si je peux prendre l'expression.
Écoutez, moi, je pars d'un constat, c'est-à-dire déjà un peu d'introspection. Je fais partie de cette génération qui a véritablement un intérêt pour le passé. Et quand je dis de cette génération, ça ne concerne pas que ma génération. Hein, ça concerne, j'allais dire, toutes les générations. On a en France, et c'est heureux, vraiment une appétence pour les reliques du passé. Tout simplement parce que je pense que les gens souhaitent rechercher dans les racines de notre territoire, dans son passé, des raisons de pouvoir continuer d'avancer en l'absence de perspectives politiques comme nous avons depuis quelques années. Alors, sur Brionne, effectivement, nous travaillons de façon étroite avec Brionne Carrefour d'Histoire, l'association, avec l'association des Amis et Monuments et Sites de l'Eure.
On rappelle que Brionne est une ville gallo-romaine, non ?
Oui, c'est une ville gallo-romaine. Elle est positionnée sur l'itinéraire d'Antonin, qui date du IIIe siècle, également sur la table de Peutinger. Elle s'appelait Brevio Durum. Et puis, nous avons une archéologie assez riche, que ce soit l'archéologie médiévale sur la rive droite, et plus récemment l'archéologie antique gallo-romaine. Vous l'avez rappelé, il y a sur le secteur qui borde le collège et le lycée Il y a eu des fouilles récentes qui ont mis à jour un atelier, on va dire, artisanal de découpe et de peut-être de tannage de peaux qui date du IIIe siècle. Nous avons fait l'acquisition également récemment d'une ancienne chapelle, la chapelle Notre-Dame, qui était la chapelle d'un couvent des Augustines des XVIe et XVIIe siècles. Cette chapelle qui a sans doute été, d'après les spécialistes, une église, elle est d'ailleurs citée dans un document qui date du XIe siècle. Nous souhaitons évidemment, elle n'a jamais fait partie du giron communal public, nous voulions par cette acquisition la rendre aubrionnée. Et nous avons des projets de valorisation à la fois historique et touristique. Alors, c'est encore un peu embryonnaire, mais il y a autour de cette église l'histoire d'un miracle de Saint-Nicolas qui serait la relation, l'une des premières relations d'un miracle du saint en Occident. Donc, il y a matière à faire.
Juste avant de clôturer, vous avez re-signé une licence football vétéran ou pas cette année ?
Écoutez, non, ça fait, à mon grand regret, ça fait 2 ans que je ne joue plus au football, sauf évidemment à la PlayStation avec mon fils, qui me bat à plate couture maintenant. Et je dis bien un regret parce que effectivement.
Mais le foot à Brionne va bien.
Le foot va mieux.
Va mieux.
Va mieux à Brionne.
D'accord. Voilà. Écoutez, merci en tout cas à Valérie Berieux d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
On espère vous revoir très vite. On vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures politiques, familiales, etc. Vous allez pouvoir retrouver cet hebdo politique en podcast, son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.